Voici que dans la 43e année de ma course temporelle, alors que je m'attachais avec beaucoup de crainte à une vision céleste, toute tremblante d'attention, je vis une très grande splendeur dans laquelle une voix se fit entendre du ciel. Elle me disait: ô homme fragile, cendre de cendre, pourriture de pourriture, dis et écris ce que tu vois et entends. Mais parce que tu es timide pour parler, peu habile pour exposer, peu instruite pour écrire ces choses, dis et écris selon, non, la bouche d'homme, ni selon l'intelligence d'une invention humaine, ni selon la volonté de composer humainement, mais selon ce que tu vois et entends de célestes merveilles venues de Dieu. Répète-les telles qu'elles te sont dites à la manière de quelqu'un qui entend les mots de celui qui l'instruit, et expose-les selon la teneur de la parole telle qu'elle est voulue, qu'elle t'est montrée, telle qu'elle t'est prescrite. Ainsi donc, toi, homme, dis ce que tu vois et entends. Cela non à ta manière, ni à la manière d'un autre homme, mais selon la volonté de celui qui sait, voit et dispose toutes choses dans le secret de ses mystères. Et de nouveau j'entendis la voix du ciel me disant: dis donc ces merveilles, et écris-les telles qu'elles te sont enseignées et dites. J'avais en effet 42 ans et 7 mois. Une lumière de feu d'une extrême brillance venant du ciel ouvert fondit sur mon cerveau tout entier, et tout mon corps et toute ma poitrine comme une flamme qui cependant ne brûlait pas, mais qui par sa chaleur enflammait de la façon que le soleil chauffe ce sur quoi il darde ses rayons. J'avais ressenti la force des mystères, des secrets et des visions admirables depuis mon jeune âge, c'est-à-dire depuis le temps où j'avais environ 300 et demi, jusqu'à présent de façon admirable, en moi-même comme à présent. Cependant, je ne l'avais manifesté à aucun homme, sauf quelques-uns, peu nombreux, hommes religieux qui vivaient dans le même état où j'étais moi-même. Autrement, j'avais gardé dans un tranquille silence tout ce temps, jusqu'à ce moment où Dieu voulut me manifester cela par sa grâce. Les visions que j'ai vues, ce n'est pas dans le sommeil, ni en dormant, ni en extase, ni par mes yeux corporels ou par mes oreilles humaines extérieures. Je ne les ai pas reçues dans des lieux cachés, mais c'est en étant éveillé que je les vois de mes yeux et de mes oreilles humaines, intérieurement, simplement en esprit. Et je les ai reçus dans des endroits découverts selon la volonté de Dieu. Comment cela se fait-il? Il est difficile à l'homme charnel de le savoir. Mais le fait est que l'âge de la jeunesse passée, parvenu à la maturité où s'acquiert la force parfaite, j'ai entendu une voix céleste. Elle disait: je suis la lumière vivante qui illumine ce qui est obscur. L'homme que j'ai voulu et que j'ai introduit admirablement selon ce qu'il m'a plu, dans de grandes merveilles, je l'ai établi au-delà de ces hommes anciens qui ont pu voir en moi de nombreux secrets. Mais je l'ai étendu à terre pour qu'il ne s'érige pas en quelque exaltation de son esprit. Le monde n'a eu en lui ni joie, ni délectation, ni promotion en ces choses qui lui appartiennent en propre, car je l'ai soustrait à toute audace et entêtement, demeurant craintif et épouvanté dans ses souffrances. Car il a souffert dans les moelles et dans les veines de sa chair, ayant l'esprit et le sens contractés, et souffrant de grandes passions corporelles de telle façon qu'aucune sécurité n'a pu demeurer en lui, mais qu'il a pu s'estimer coupable en tout ce qu'il concernait. Car j'ai enclos les ruines de son cœur, de peur que son esprit ne s'éveille d'orgueil ou de vaine gloire, mais qu'ils sentent en toutes choses craintes et douleurs plutôt que joie et exultation. Aussi, à mon amour, il a recherché dans son esprit ce qui lui ouvrait le chemin du salut. Et il a trouvé quelqu'un, et il l'a aimé, reconnaissant que c'était un homme fidèle et semblable à lui en cette part de l'œuvre qui me regarde. Cela afin que mes merveilles cachées soient révélées. Et ce même homme ne s'est pas refusé en se repliant sur lui, Mais allant à lui dans l'élévation de l'humilité, de l'intention, de la bonne volonté qu'il trouva, il s'est incliné avec nombre de soupirs. Toi donc, ô homme, qui reçois non dans l'inquiétude d'une déception, mais dans la pureté de l'esprit simple, ce qui t'est adressé pour la manifestation des choses cachées, écris ce que tu vois et entends. Cette parole s'adresse à nous. Mais tout, mais moi, poursuit de cas, bien que j'aie vu et entendu cela, cependant parce que je doute et que j'ai mauvaise opinion à cause de la diversité des paroles humaines, tout ce temps, non par obstination, mais pour cause d'humilité, j'ai refusé d'écrire jusqu'à ce que j'aie été forcé sur le lit de douleur où je suis tombé, atteint d'un fléau de Dieu de telle façon qu'enfin j'ai été affligé de multiples infirmités. J'avais demandé et trouvé, grâce au témoignage d'une jeune fille noble et de bonnes mœurs, et de cet homme que j'avais consulté et trouvé en cachette, comme je l'ai dit, j'ai fini par mettre la main à l'écriture. Et tandis que je le faisais, sentant la grande profondeur de l'exposition des livres, comme je l'ai dit, je me suis relevé de ma maladie et j'ai retrouvé des forces. À peine ai-je pu conduire jusqu'à la fin ce travail en y consacrant 10 années. Au jour d'Henri, archevêque de Mayence, de Conrad, roi des Romains, de Cunon, abbé de Saint-Dicipaud, au temps du pape Eugène III, ont été faites ces divisions et ces paroles. Je l'ai dit et écrit, non selon une recherche de mon cœur, ou quelque autre homme, tels que je les ai vus en vision céleste, tels que j'ai entendu et perçu le secret mystère de Dieu. Et de nouveau, j'ai entendu une voix du ciel qui disait à moi, clame donc et écris de cette manière. Depuis l'âge de 3 ans et demi, elle reçoit la révélation. C'est resté caché. Elle s'est rendue compte que les autres enfants, même les religieuses, ne voyaient pas ce qu'elle voyait. Alors, elle avait peur, elle ne disait rien. À l'âge de 13 ans, donc, elle est rentrée au monastère. Elle est devenue vierge consacrée, une bénédictine. 13 ans. C'est 30 ans plus tard, oui, 30 ans plus tard, que, au mois près, 30 ans plus tard, donc il y a eu un silence monastique, 30 ans plus tard, elle recèle, se révèle les lumières, mais 30 ans plus tard, elle a reçu l'ordre de le proclamer partout. C'est comme ça qu'il y avait le concile de Trèves. Et c'est ce qu'elle dit ici, dans cette vision. Tout ça a germé, au fond, dans les 30 ans de la vie cachée, Jésus-Marie-Joseph, c'est ça que ça veut dire. Alors, ce que nous pouvons recevoir là, ce matin, dans la lumière du plein soleil, ce que je vous propose, c'est de lire la quatrième vision du livre des Actes divines. C'est une vision. Toutes les visions d'ailleurs de Saint Hildegard, toutes, représentent Dieu. Elles représentent l'homme qui est Dieu. Nous représentent nous. Chacun d'entre nous est exactement la description de la vision de Saint Hildegard. Chacun d'entre nous est la description de la vision de Saint Hildegard. Parce que Dieu est là, puisque nous sommes là. Il suffit simplement d'atteindre la mesure de ce que nous sommes, dans l'ardeur ignée de la virilité de Dieu, pour maîtriser tous les éléments du monde, dont nous sommes l'image, la ressemblance, certes, mais aussi l'actuation. Le monde n'est qu'en puissance, nous sommes son acte. Alors, à chaque fois, ce sont des grands. Vision, avec on voit des grands cercles dans quelquefois des coins, des zones, et on voit la véracité de l'humanité, notre humanité, telle qu'elle est, pas telle que nous la vivons, mais telle qu'elle est. Et l'Apocalypse, c'est faire cette révélation pour que nous retrouvions ce que nous sommes et que nous fassions surabonder. Nous abandonnions notre destruction pour rentrer dans notre demeure, dans notre véridité. La moindre des choses qui sont sur nous, la moindre des choses, au millimètre près, montre que Dieu et nous, nous sommes un. On disait ça à Parelmanial, elle dit entre ici, ici, vous voyez, une articulation, une autre, tac tac tac, ici, une autre, tac tac tac, ici. C'est les deux os, là, tac là, deux. Là. 22 articulations. Du coup, il y a 22 patriarches. Il y a 22 paternités primordiales de Dieu dans la Bible, d'Adam jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Combien y a-t-il d'os qui s'associent dans l'harmonie d'un seul visage? Il y a 22 os dans l'ensemble de la tête de l'homme. Parce que la tête de l'homme est le siège de la paternité de Dieu. Et ses articulations, lorsqu'elles vont jusqu'au bout de son acte, sont les actes de Dieu lui-même. S'ils sont dans l'harmonie des énergies de Dieu. Alors, je vous en prie, Saint-Hildegarde, expliquez-nous. Je vais faire pas tout lire parce que la quatrième vision, ça durait 2 heures, hein. Mais j'ai sélectionné quelques petits, enfin, quelques passages. On va vous sélectionner quelques passages. Vous voyez, quand vous faites le... Je peux pas m'empêcher de parler. Quand vous êtes tout seul, que vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin, ce que Dieu ne plaise, que vous ne fîtes pas. Alors, vous ne pouvez pas célébrer la messe, mais vous pouvez lire une vision. Toutes les visions sont des visions de ce qui se passe dans la transsubstantiation eucharistique, où l'homme devient Dieu, où Dieu devient l'homme, où le Christ Jésus, notre Seigneur, ouvrant toutes ces portes pour que tous les hommes deviennent Dieu et que Dieu devienne tout homme. Alors vous faites une lecture et vous avez le fruit du sacrement de l'Eucharistie en vous. Et à la fin, prenez autorité sur les éléments. C'est aussi simple que ça. Vous le dites et ça se fait. C'est pas une œuvre de l'homme, c'est une œuvre de Dieu, c'est le Saint-Père qui a ouvert le pouvoir de l'autorité de l'homme. Et nous sommes au 9e mois. La virilité peut naître aujourd'hui dans celle du monde nouveau qui anticipe. La maîtrise parfaite de tous les éléments. Vous voyez, Saint-Hildegarde, expliquez-nous.
Et mon père, si on prend autorité entre minuit et 3 heures, qu'on le dit et que ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'on a un petit problème. Ou alors c'est pas dans le temps que ça se fait. C'est que notre temps n'est pas le temps de Dieu.
Stop, Aquilon. Arrière. Laisse souffler le vent qui souffle dans le soleil. Au milieu du soleil, il y a une porte Et dans cette porte, il y a un trésor. Et l'or est qui nous y mène. Écarte l'aquilon et les éléments sont dans la main de Dieu, fils d'homme. Tu ne fais pas mouvoir les éléments selon ta volonté. En saint Hildegarde, expliquez-nous. Je vis le firmament et toutes ses dépendances, son épaisseur, d'un bord à l'autre, au-dessus de la terre, était égal à celle de la terre. Sur tout son diamètre, je vis aussi le feu supérieur du firmament, ébranlé par instants. Il projetait sur terre des braises, comme des écailles d'un poisson. C'est génial. Moi, à chaque fois, j'ai envie de m'arrêter. À chaque fois, j'ai envie de m'arrêter. Ces braises marquaient et ulcéraient les hommes, les animaux, les plantes. Je vis aussi comme un brouillard qui s'échappait du feu noir et qui atteignait les terres. Il asséchait la viridité terrestre. Il réduisait l'humidité des champs. Mais les terres, dans sa pureté, s'opposaient à ces écailles. Et à ses brumes. Il empêchait que les fléaux ne frappassent outre mesure les créatures que nous avons citées. L'air blanc, dense et lumineux dégageait lui aussi un autre brouillard en direction des terres. Il envoyait sur les hommes et sur les troupeaux une grande peste. Nombreux étaient ceux qui encouraient bien des maladies, et légion ceux que la mort frappait. L'air aqueux, quant à lui, l'air plein d'eau, s'opposait à ce brouillard. Vous voyez la contemplation pleine de grâce, en plénitude reçue. L'air aqueux. Vous avez compris que c'était ça, j'espère. Je me dirais, l'air aqueux. Ah oui, l'air aqueux, l'air aqueux. Non. S'opposait à ce brouillard, il le tempérait, afin qu'il n'apportât pas aux créatures de blessures excessives. Je vis aussi une humeur qui jaillissait en bouillonnant de l'air mince et qui se répandait sur la terre. Elle y suscitait la virilité. Oh que c'est beau ce mot de virilité inventé dans la langue des hommes par Dieu en saint Hildegarde. Ce mot n'existait pas. Elle y suscitait la virilité. Elle provoquait la germination de tous ses fruits. Dans ses parties supérieures, elle portait également quelques nuages qui soutenaient les couches supérieures et que ces couches à leur terre confortaient. J'aperçus aussi en ce même air un nuage blanc qui, en ses confins, était comme fixé aux autres nuages du firmament. En son milieu, il était courbé comme un arc et il s'étendait dans l'air dont nous avons parlé. On pourrait rester au moins 2 heures là-dessus. C'est génial. Ça ne fait rien si on ne comprend pas tout. On entend la parole. Elle est révélée. Elle descend au fond de nous. Elle produira son fruit. Inexorablement. Elle réalisera dans l'acte des vertus, jusqu'à son confin, tout ce qu'elle signifie. La paternité de la chair assumée que nous sommes. De nouveau, j'entendis alors la voix du ciel qui s'adressait à moi en ces termes. Dieu, le créateur de tout ce qui existe, a conféré sept constitutions au monde supérieur, afin grâce à eux de conforter et de purifier les mondes inférieurs. Tu constates que le firmament et ses dépendances ont exactement l'épaisseur de la terre. C'est aux hommes pour te montrer, pour te signifier leur égalité. Le vide aérien, en effet, qui s'étend de la terre aux limites supérieures, est le même vide que celui qui va de sous la terre aux limites inférieures, à l'enfer. Et c'est le même aussi qui, vers le sud et vers le nord, sépare la terre des limites opposées du firmament. Voilà pourquoi, c'est une révélation, l'homme, en son esprit intérieur, manifeste ses forces aussi bien sur terre que dans les cieux. Son corps applique ses énergies à ces doubles pratiques. Lorsque l'âme et le corps s'accordent dans leur rectitude, ils obtiennent dans une joie unanime des récompenses suprêmes. Tu vois aussi que des braises tombent du firmament sur les hommes, les animaux et les plantes. C'est que Dieu a donné au firmament par le feu une fermeté qui empêche sa dispersion. Il l'a élevé par l'éther alors qu'il se mue, pénétré d'eau afin qu'il ne desséchât, illuminé d'étoiles afin qu'il manifestât sa clarté, soutenu aussi par les vents afin qu'il poursuivît sa course avec zèle. Le firmament, en effet, reçoit dans les quatre zones de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Septentrion, des énergies éoliennes qui permettent sa rotation. Oh, c'est pour les éoliennes. Vous voyez des éoliennes, pensez à ça. La rotation du firmament dans les terres. Le feu lumineux, quant à lui, lorsque le jugement et l'injonction de Dieu les séparent de l'humeur de l'eau inférieure, lorsque son ardeur abandonne la juste mesure, envoie, comme nous l'avons dit, ses braises, que l'ardeur rend brûlante et que l'eau rend humide. Afin que le châtiment s'exerce. Je reprends. Le feu lumineux, quant à lui, lorsque le jugement et l'injonction de Dieu le séparent de l'humeur de l'eau, de l'eau inférieure, bien sûr. Lorsque son ardeur abandonne la juste mesure, envoie, comme nous l'avons dit, ses braises, que l'ardeur rend brûlante et que l'eau rend humide, afin que le châtiment s'exerce. Le châtiment, c'est toujours l'eau et le feu. Cela montre que la puissance de Dieu, qui détient en son pouvoir l'esprit de l'homme, ébranlé par un juste jugement, châtie les actions perverses des hommes. Les hommes sont alors confondus et renversés, parce qu'ils ne se conduisent pas en hommes, mais en animaux, parce qu'ils ne produisent aucun fruit mûri par les œuvres bonnes. Si le feu noir, parfois, libère un brouillard qui descend sur terre, qui assèche la viridité terrestre et qui réduit l'humidité des champs. Il arrive que la volonté de Dieu agite dans un même feu l'ardeur et le froid. Le brouillard qui descend alors, que l'ardeur pernicieuse transforme en fumée et que la froidure humidifie, sert au châtiment des pécheurs. Ce feu noir, en effet, excité par le vent du sud, s'embrase. Et l'excès de froid qui vient du vent du nord, l'aquilon, provoque la grêle. Heureusement, l'action modératrice du vent d'est s'exerce. Mais le vent d'ouest, faisant irruption dans l'air humide, déclenche au sein des commotions intermittentes du feu noir une dangereuse inondation. C'est que l'examen du juge attise d'autres châtiments sur les concupiscences de la chair. Son mépris les dessèche. Il consume totalement leur grossièreté parce que Dieu réduit à néant tout ce qui s'oppose à lui. L'éther placé entre les feux et les eaux tempère ce qui est au-dessus et en dessous de lui. Les eaux sont retenues par le feu, et réciproquement, la pénitence dans sa pureté adoucit la vengeance et le châtiment de Dieu. On a une action directe, voyez, sur l'ensemble des énergies de l'éther, du vide cosmique lui-même, tout entier. L'éther tout entier qui va jusqu'aux confins de l'univers, par un seul acte de pénitence. Nous tempérons. L'air dense, lumineux et blanc libère un brouillard pestilentiel. Ces fléaux ne se déchaînent pas si l'homme garde le discernement. L'air à queue exerce une action modératrice. L'air à queue, l'air plein d'eau. Si l'humeur qui s'échappe de l'air mince suscite sur terre la viridité, si elle provoque partout la germination, si elle porte aussi des nuages qui soutiennent toutes les couches supérieures et sont à leur tour confortés par elle, c'est que l'air libère de la neige. Cette neige en flocons se répand sur terre lorsque le froid saisit la terre, quand le soleil est bas. Les gouttes d'eau se transforment en neige sous l'effet du froid supérieur. Mais lorsque l'ardeur du soleil monte, ce même air dégage une rosée qui tombe sur la terre. Il y a un mouvement. Mais lorsque l'ardeur du soleil monte, ce même air dégage une rosée qui tombe sur la terre comme un rayon de miel. La douceur du vent est transforme parfois cette rosée en une douce pluie. Cet air repousse aussi les dangers qui viennent d'en haut. Il est le bouclier qui protège la terre, comme le bouclier protège le corps du soldat. Ainsi, la chaleur tempérée et délicieuse du soleil envoie sur terre cette rosée qui est celle de Jacob bénissant ses fils. À cause de la montée de l'eau et de l'humidité de la rosée, cet air parfois se met à fumer. Mais cette fumée n'est pas nocive. Elle lèche au contraire toute la fertilité de la terre. Elle la purifie des puanteurs repoussantes dont l'ouragan la souille par moments. Cet air supporte et soutient aussi les nuages évoqués, tantôt clairs, tantôt ombrageux. Ces nuages sont comme des mamelles particulières qui envoient la pluie sur la terre comme du lait. Ces nuages s'étendent parfois jusqu'aux couches supérieures. Ils y puisent leur énergie. Tu l'avais déjà lu ?
Non.
Ah. Ah bon, pourtant. Hein. Le feu les conforte, Les terres les allègent, les eaux qui les pénètrent et le froid les coagule pour ne plus que se produise sur terre un épanchement pluvieux excessif. Il y a trop d'humidité. Mais ces nuages sont aussi ce miroir que les hommes nomment ciel. À travers eux, ils voient les lieux propres du soleil, de la lune et des étoiles, comme on voit des formes à travers un miroir, mais ils s'imaginent à tort distinguer la constitution propre de ces astres. Les nuages ne montrent les fonctions de ces constellations que comme dans l'ombre d'un miroir, comme l'on aperçoit dans l'eau qui court une image renversée. Cela montre que la pensée du croyant qui s'échappe d'un désir authentique aspire à la fécondité et à l'utilité. Elle présente des œuvres bonnes, elle provoque sa viridité afin de produire des fruits multiples, afin d'élever des esprits vers ce qui est céleste, afin d'en nourrir le souhait. Les cieux, à leur tour, le confortent, car l'homme qui, dans un désir authentique, tend aux fruits des bonnes œuvres, méprise ce qui est terrestre. Il s'attache tellement à ce qui est en haut dans les cieux, qui apparaît totalement immuable, comme s'il n'était pas un homme. C'est assez extraordinaire. Dans cette couche aérienne, tu aperçois également un nuage blanc, accroché à ses deux extrémités, à d'autres nuages du firmament, courbé en son milieu, comme un arc, et qui s'étend dans l'air dont nous avons parlé. Vous vous rappelez de ça ? En ces nuages, en effet, que soutient et que soulève cette air, se meut un autre nuage, d'une couleur laiteuse, qui renforce cette air, comme une colonne soutient une maison. C'est que du sein de l'ordre susti, les esprits des hommes de désir authentique sont ainsi faits qu'ils attendent dans les causes du siècle, comme dans celles de l'esprit, les récompenses finales de leurs œuvres. Ça, c'est fort. Ils concluent les affaires de la terre et celles du ciel qui plaisent au juge suprême, même si la perfection de leurs esprits ressent parfois comme pliée en elles la fragilité de la chair. Elles n'en persévèrent pas moins, ainsi que le montrent les propos de mon serviteur Job. Dans un désir authentique, le juste s'affermit dans ses voiles. L'homme aux mains pures redouble de force. Comprenons-le ainsi, l'homme qui aime la justice, Saint Joseph, l'homme qui aime la justice tiendra le cap de la rectitude par la tension de son énergie. Et celui qui demeure pur, loin de ce qui est sordide, gagnera la sainteté par ses bonnes œuvres. S'abstenant de ce qui est mal, il se tourne vers tout ce qui plaît à Dieu, jusqu'à acquérir cette vie qui n'a pas de fin. Le juste s'empare de la sagesse, et cette sagesse étend la raison, qui sait ce qui est vivant, qui sait ce qui est mortel, qui enseigne la droiture du chemin. Quant à l'aveuglement du cœur, né de l'appétit de la chair, il ombrage la science pure en essayant d'accomplir ses propres volontés, son mouvement. Aussi persiste-t-il dans l'aveuglement, jusqu'à prendre possession de ses blessures, jusqu'à se répugner soi-même, jusqu'à se demander où trouver encore une assise. Lui qui a fait sécession de Dieu, voyez ça. Il ne faut pas s'occuper de ses blessures. On est responsable, on n'est pas victime de ses blessures. C'est fini ça. Des milliards de derrière, de kilomètres derrière nous, s'il vous plaît, nos blessures. Derrière nous. Arrière, Satan. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Fils d'homme, viriditas. En ses pensées, l'homme doit contempler le Dieu Tout-Puissant comme un sceau
Il doit proclamer tous ses miracles et tous ses signes. Il doit, sur le modèle du firmament, consolider sa demeure pour ne pas être arraché à Dieu par un ébranlement de crainte ou d'amour. Aussi Dieu a-t-il fait du firmament le marchepied de son trône. Et le firmament est animé d'un mouvement circulaire. Vous comprenez que le firmament, c'est pas le firmament, le marche-pied de son trône. Et le firmament est animé d'un mouvement circulaire, éternel. Sur le modèle de la puissance de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. De même, personne ne peut voir où commence, où s'arrête une roue qui tourne. Le trône de Dieu, c'est son éternité. Et Saint Joseph, c'est fort, Saint Joseph. Vous avez compris que c'est Saint Joseph, j'espère. Depuis le début. J'espère. Non. Ma Maureen. Francis. Le trône de Dieu, c'est son éternité, là où seul il repose, et tous les êtres vivants sont comme les étincelles qui jaillissent de sa splendeur, comme les rayons du soleil. Comment saurait-on que Dieu est vie, autrement que par ces créatures vivantes qui le glorifient, qui procédèrent de lui en célébrant sa gloire? Il a donc placé ces étincelles vivantes et ardentes pour éclairer son visage. Ces étincelles constatent qu'il n'a ni commencement ni fin, et elles ne se lassent jamais de le contempler. Elles le regardent avec un zèle qui n'a pas de cesse. Et jamais ce zèle ne passera. Comment en effet reconnaître que Dieu seul est éternel si les anges n'étaient pas là pour le contempler sous cet aspect? Sans ces étincelles, comment sa gloire apparaîtrait-elle dans sa plénitude? Comment son éternité serait-elle connue s'il n'émettait aucune clarté? Il n'est en effet aucune créature qui ne possède quelques rayons, viridité, semence, fleur ou bien beauté. Autrement, ce ne serait pas une créature. Vous vous rappellerez de ça, hein? Il faut apprendre ça par cœur. Rayonnement, viridité, semence, fécondité, fleur ou beauté. Sinon, ce ne serait pas une créature. Si Dieu n'avait pas la possibilité de tout faire, où serait sa puissance ? Dieu a consigné dans le premier ange la beauté tout entière des œuvres de sa puissance. Il l'a orné comme le ciel étoilé des étoiles et de la beauté de sa viridité, de toutes sortes de pierres précieuses et étincelantes. Il lui a conféré le nom de Lucifer, parce que Lucifer a porté la lumière de celui qui seul est éternel. C'est que j'ai montré mes œuvres en trois régions, à l'Orient, à midi, à l'Occident, j'ai laissé vide la quatrième région, celle du septentrion. Ni le soleil, ni la lune n'y brillent. C'est dans cette zone distincte du firmament que se trouve l'enfer, sans toit ni fond. C'est là que sont les ténèbres. Mais ces ténèbres desservent aussi toutes les lumières de ma louange, car comment connaître la lumière autrement que par les ténèbres? Et comment connaître les ténèbres autrement que par le rayonnement fulgurant de mes serviteurs? Autrement, ma puissance manquerait de plénitude. Et mes merveilles seraient anonymes. Ainsi, ma puissance est plénitude et perfection. Et mes merveilles sans manquement. lorsque mon éclat lumineux est dénué de ténèbres. Il a nom lumière. Un œil qui vit véritablement est lumière. L'aveuglement, ce sont les ténèbres. Ces deux points permettent la connaissance universelle du bien autant que du mal. Par la lumière, nous voyons les œuvres divines. Par les ténèbres, cet éloignement de Dieu qui n'effleure pas la lumière en ceux qui, dans la part réservée à l'orgueil, refusent la confiance en Dieu. La multitude innombrable des étincelles qui adhéraient au premier ange, perdu, resplendit dans le rayonnement de tous ses ornements. Ainsi le monde déborde de lumière. Mais quand l'ange s'aperçut que tout son ornement devait se placer au service de Dieu, il repoussa cet amour, il aspira au septentrion des ténèbres, se disant à part lui qu'il serait glorieux pour moi d'œuvrer de ma propre initiative, son mouvement, d'accomplir les œuvres que je vois Dieu accomplir. Tous ses compagnons acquiescèrent et dirent « Plaçons notre trône au nord en face du Très-Haut. » Ainsi, ils délibéraient entre eux, désireux de se séparer, de s'écarter pour toujours des serviteurs de Dieu, désireux aussi de voir leur maître égal en puissance et en magnificence au plus haut de tous. Alors les yeux de l'unique éternité s'enflammèrent. Elle retentit dans un grondement de tonnerre. Elle précipita loin d'elle par le ministère des anges le premier transgresseur et toute son armée. Les anges de Dieu, disponibilité surnaturelle parfaite. Les anges de Dieu clamaient dans un bruit de tonnerre. Quelle présomption inique pourrait égaler Dieu, notre Créateur, qui est sa seule origine. Parce que tu t'estimes tel, toi qui n'as que ce prétexte pour source, parce que tu veux être semblable à lui, ruiné tu seras. Aussitôt, il tomba à la renverse comme un bloc de plomb, en compagnie de ses acolytes, en ce lieu de ténèbres, lui qui avait voulu engager la lutte contre Dieu dont il ne voyait pas, plongé qu'il était dans les ténèbres, resplendir les œuvres. Ainsi Dieu mena une guerre ouverte contre lui. Tout en contemplant ce vêtement qu'il portait en sa connaissance depuis le début des temps. En ce vêtement, Satan, qui s'était enfui loin de lui, jamais n'aura pu le contempler parfaitement. Il ne le pourra que lorsque la lutte tout entière sera achevée, lorsqu'il l'apercevra dans la grande douleur de sa confusion, lorsqu'il sera totalement confondu dans la fin des siècles par ce même et juste jugement. Aussi Dieu, en cet antique conseil qui toujours l'assista, décida-t-il de parachever son œuvre, il forma l'homme. Pour parachever son œuvre, d'une boue fangeuse, sous la forme prévue avant même le commencement des temps, le cœur de l'homme enferme en soi la raison. Il ordonne déjà les paroles qui retentissent, avant même qu'elles ne s'expriment. Ainsi Dieu agit en son verbe, en créant tout, en cachant dans le Père ce verbe qui est le Fils, comme le cœur de l'homme est caché au sein de l'homme. Dieu créa la forme humaine à son image, à sa ressemblance, désireux que cette forme enveloppât la sainte divinité. Aussi consigna-t-il dans l'homme toutes les créatures. Dans la mesure même où toute créature procéda de son verbe. Voilà pourquoi nous trouvons dans la tête de l'homme ce sommet qu'est le cerveau, comme sur une roue qui tourne, cerveau sur lequel s'appuie une échelle. C'est l'échelle de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du langage, qui permet à l'homme de voir toutes les créatures, de les connaître, de les discerner, de les distinguer, de les nommer en elles, de les porter en lui, il les nomme. Dieu forma l'homme, il le vivifia par ce souffle vivant qu'est l'âme, il le coagula dans la chair et dans le sang. Il le coagula dans la chair, dans le sang. Il le consolida par la masse de ses eaux, comme la terre est consolidée par les pierres. La terre, en effet, ne peut exister sans les pierres, comme l'homme sans son squelette. Quant au firmament, le soleil, la lune, les étoiles, il ne les garde pas hors de lieux constitués dans lesquels ils achèvent leur course. Ces constellations ne pourraient jamais être assurées si leur lieu n'était pas défini. Tous les lieux répondent donc à de justes mesures. Afin que le cercle de la roue du firmament puisse tourner convenablement, de même tout est consigné dans la forme humaine, sans l'ordre, sans la perfection cependant que nous révélons dans les créatures supérieures. Tous ces points concernent également l'âme. Le sommet du crâne en effet correspond au début de l'œuvre de l'âme qui dispose et qui ordonne par le mouvement circulaire de la raison toute l'œuvre humaine. Et cette âme en tant que sommet discerne dans le corps tout ce que ce dernier réclame et désire. Elle le réalise par les 4 degrés ascendants et descendants que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et grâce à ces degrés, elle comprend et elle perçoit les créatures. Ainsi, son récipient charnel s'étend en même temps qu'elle vers les créatures et sa volonté propre les attire à soi. Aux côtés donc de la créature qui se développe, l'âme vole comme l'air pour accomplir tous les désirs du corps. Connaissant le nom des créatures et en conformité avec le corps, elle développe à leur égard amour ou haine. La taille de la stature humaine et sa largeur, lorsque l'on étend régulièrement les mains et les bras à hauteur de la poitrine, sont totalement identiques. Cette égale mesure de la hauteur et de la largeur de l'homme correspond à la science du bien et à celle du mal. À cette science qui reconnaît le bien en ce qui est utile et le mal en ce qui est inutile. Or, l'âme est prise au filet par le goût de la chair et du sang des autres membres, comme les bêtes par le chasseur. Elle peut à peine respirer avant que le corps n'ait satisfait ses désirs. Ensuite seulement, elle éveille dans le corps ses soupirs qui montent vers elle. Dans la rotondité de la tête humaine, c'est la rotondité du firmament qu'on retrouve. Les dimensions justes et rigoureuses du firmament correspondent aux mêmes dimensions de la tête de l'homme. Celle-ci a donc des mesures exactes, comme le firmament, qui répond lui aussi à des mesures rigoureuses, afin de pouvoir accomplir une révolution parfaite, afin qu'aucune partie n'outrepasse injustement la mesure d'une autre. Il y a une identité parfaite entre le firmament et la tête de l'homme. Et en même temps, entre le ciel empyré et les ailes qui enveloppent le firmament. Et le corps entier de l'homme et sa mesure. M'excuse de répéter la même chose qu'elle. C'est au cas où vous ne l'auriez pas entendu. Il y a une identité entre la création tout entière et l'homme. Et cette identité, c'est Dieu. C'est que Dieu a façonné l'homme sur le modèle du firmament. Il a conforté son énergie par des forces élémentaires. Ces forces, il les a aussi confortées à l'intérieur de l'homme, afin que ce dernier les aspirât. Et les expira. La rotondité, l'harmonie de la tête de l'homme signifie donc que l'âme suit dans les péchés la volonté de la chair avant de se renouveler dans les soupirs qui la portent vers la justice. Cette harmonie fait que les délices que l'âme a vécues dans les péchés sont à la mesure de l'affliction qu'elle éprouve dans les souffrances que ces mêmes délices entraînent. Ainsi, l'âme acquiert la pudeur. Elle la conserve. Parce qu'elle ne jouit pas réellement des péchés. C'est le goût de la chair seulement qui, dans son intention même, accomplit ses péchés. Même si l'homme, en effet, avait vécu dans ses péchés jusqu'à en éprouver une répulsion, dominé par la pudeur de l'âme, il renoncerait à ses mêmes péchés. Certes, l'âme est vaincue par la nature de la chair, mais si corps et âme vivent de concert, ils se trouvent en même temps dans un conflit permanent. L'âme souffre toujours de voir le corps plongé dans les délices de la chair. Les esprits malins provoquent une grande confusion, incapables qu'ils sont de détruire la pénitence dans les âmes des justes. Dans leur chute à cause de la grande haine, ils nourrissent à l'égard de Dieu cette haine. Jamais ils ne peuvent se repentir de leurs actes. Ainsi, en tout point, l'âme révèle sa rotondité, son harmonie. Vous voyez, nous, on a un visage, un crâne. Et donc on peut se repentir, le démon pas. Ainsi en tout point, l'âme révèle sa rotondité, son harmonie. La science du bien répugne à celle du mal. La science du mal à la science du bien. Mais les deux s'éprouvent réciproquement. La science du bien ressemble à la pleine lune. Ses bonnes œuvres dominent la chair. Dans le cas contraire, tout se passe comme lorsque la lune décroît. Son cercle n'apparaît plus que dans l'ombre. La tête de l'homme correspond aux trois éléments supérieurs. Du haut du crâne jusqu'au front règnent les deux feux, le clair, puis au-dessous, le noir. Du front jusqu'à l'extrémité du nez règne le pur éther. Du nez jusqu'à la gorge, l'air aqueux. Au-dessus de l'air dense, blanc et clair. Ces régions respectent entre elles des proportions rigoureuses qui correspondent exactement à l'épaisseur du feu supérieur par rapport au feu noir, à celle du pur éther et de l'air aqueux par rapport à l'air dense, blanc et lumineux. Vous ne saviez pas ça, hein ? L'âme abrite en effet trois forces en elle, la compréhension qui embrasse le ciel et la terre dans la puissance de Dieu. L'intelligence la plus capable qui reconnaît la malignité des péchés avant de les délaisser dans la pénitence. L'inclination source de son propre mouvement qui parachève, en suivant l'exemple des justes, les œuvres saintes et leurs réceptacles. Compréhension et intelligence s'unissent pour décider de l'inclination de l'âme. Si les trois forces se dominaient mutuellement, il en résulterait un équilibre injuste. Or, ces forces de l'âme sont d'accord. Aucune ne surpasse l'autre. Okay. La compréhension entoure le corps entier et ses appendices. Elle le mène dans une juste mesure vers la réalisation des désirs de la chair qui s'engouttent, de même que l'architecte mesure comme il convient une habitation humaine. Le corps lui est mu par l'âme et l'âme ne peut omettre d'inciter le corps à diverses œuvres, elle qui comprend les désirs de la chair, de cette chair dont elle est la vie. L'âme dont l'essence est la vie est un feu qui vit dans le corps. Le corps quant à lui c'est l'œuvre réalisée. Et le corps ne peut se retenir d'œuvrer dans une double voie, selon le goût de la chair et selon le désir de l'âme en même temps. Une œuvre bonne de l'âme, c'est comme le plus bel édifice en face de Dieu et des anges. L'œuvre mauvaise est comme l'édifice plein de boue et d'immondices. Aussi l'âme qui accomplit des œuvres bonnes reçoit-elle les louanges des anges. Et à celle qui opère des œuvres mauvaises en suivant les goûts de la chair, toute louange est refusée. Quant à ces mesures identiques du sommet du crâne vers l'avant, jusqu'aux sourcils, et de côté, jusqu'aux oreilles, et vers l'arrière, jusqu'au début du cou. Elle désigne l'égale densité des éléments et de leurs organes annexes. De même, l'âme abrite trois forces égales, l'expiration, la science et la sensation, qui lui permettent l'exécution de ses œuvres. Par l'expiration, elle commence ses œuvres, c'est la partie antérieure de la tête. Par la science, elle s'étend jusqu'aux deux oreilles. Par la sensation, elle se replie en quelque sorte sur elle-même jusqu'au début du cou. Ces forces s'équilibrent mutuellement car l'âme ne peut pas plus réaliser par son expiration que la science ne peut comprendre et la sensation endurer. Elles agissent donc dans une parfaite unanimité. Aucune ne dépasse l'autre. La tête, elle aussi, à ses proportions exactes. Alors là, je m'excuse, mais il y a 5 pages sur toutes les mesures de la tête, de là à là, de là à là, de là à là, du cerveau ici à là, du cerveau antérieur, le front, les sourcils, le menton. C'est extraordinaire, mais on ne peut pas tout faire. L'âme accomplit dans le corps les fonctions de l'organisme. Prise de repentir, elle s'élève vers Dieu quand le corps sèche. Tout le corps de l'homme est relié à la tête comme la terre et ses annexes sont jointes au firmament. Le cerveau. La vie de l'âme ressemble donc ainsi à la course du soleil et de la lune. Le logement du cerveau. Comme nous l'avons dit, les énergies cérébrales retiennent tout le corps de l'homme. De même que le soleil communique sa force au monde supérieur et inférieur. Le soleil, en effet, éclaire ces deux mondes et la zone septentrionale exceptée, il fait tout le tour du firmament. Lorsque Dieu communique en effet sa force à la terre entière et à ses créatures, il laisse un seul lieu vide pour que la créature connaisse qui elle est et ce qu'est la clarté de Dieu. Les ténèbres, en effet, honorent la lumière, et la zone ténébreuse sert la zone de lumière. C'est ce lieu vide que choisit Lucifer quand il voulut égaler Dieu. Le soleil se lève à l'est. Au zénith, son ardeur ne cesse de croître. Durant l'après-midi, il décline en direction du couchant, et il poursuit sa course jusqu'au matin suivant. Comme le soleil évite la zone du septentrion, le froid règne sur la terre, au matin et durant la soirée. Mais moi, qui n'ai pas de commencement, je suis le feu qui a allumé tous les luminaires, la lumière qui recouvrit les ténèbres, ces ténèbres qui ne peuvent embrasser la lumière, aussi la lumière ne se mêle-t-elle pas aux ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent se changer en lumière. De même, l'homme, en cette science bonne qu'est la vérité, la lumière de vérité, a été institué par Dieu. Et il lui arrive de pencher vers le mal, certes, en cette science mauvaise qui détient le lieu vide, dénué de tout agencement de mérite et de récompense. Ainsi, ciel et terre, lumière et ténèbres sont consignés dans l'homme. C'est cette science qui régit en tout lieu l'ensemble des œuvres humaines. L'esprit de fermeté contient toutes les autres vertus, car il exerce sa rigueur dans les deux domaines de l'esprit et du siècle. Il évite à l'homme les pièges de l'antique serpent, ce serpent qui ignore la félicité, démontre quant à lui la clarté de Dieu. Ce qui est mal permet la connaissance de ce qui est bien, et le serviteur doit être soumis à son maître. La fermeté maintient la force au début et pendant l'exécution des œuvres bonnes, et elle évite que les maux les saisissent une fois accomplis. Ainsi, il revient à sa source, il évite le mal. Au début, autant qu'à la fin, la chaleur de la persévérance qui provient de l'Esprit Saint est absente. La torpeur et la négligence poussent l'homme à des actions nocives. Mais celui qui n'a pas de commencement demeure comme la lumière qui enflamme tout ce qui brille et qui repousse toutes les ténébreuses adversités incapables de la détruire. De même donc que le croyant est régi par Dieu et que l'homme pervers s'en sépare. De même, tous les éléments sont distincts dans l'homme l'un de l'autre et respectent un ordre déterminé. L'âme apparaît telle un feu et en elle la raison, le cœur, est comme une lumière. Elle est pénétrée de la lumière de cette raison du cœur, comme le monde est illuminé par le soleil. Elle qui par la raison prévoit et connaît toutes les œuvres de l'homme. L'homme possède en lui le goût et le désir. Ces deux forces émeuvent le sang dans ses veines. En même temps que la chaleur médulaire. L'homme agit ainsi, comme une roue qui tourne. Une fois qu'on lui a donné l'impulsion, le corps qui possède le goût et le désir pousse l'âme de ci, de là, et cette dernière suit souvent ses impulsions pour diriger ses pas, mais le soleil obscurci par un nuage noir caché sous la foudre, le tonnerre est des plus excessives, n'apparaît plus. Quand ceci cesse à nouveau, il épanche sa lumière. Ainsi, il dessine l'âme de l'homme, opprimée à ce point par le corps qu'elle agit selon les désirs de la chair et que la lumière de la raison en elle s'ombrage. Parce que la colère est comme la foudre, l'avidité comme le tonnerre, les désirs illicites de la chair comme des pluies excessives. Et quand la pénitence l'a nettoyée de ses maux, elle brille de nouveau dans la clarté de la lumière véritable, dans l'espérance de la délivrance et du salut. L'âme exhale la raison comme le feu ses étincelles. Et elle discerne grâce à elle, céleste et terrestre. Aussi, s'il est dominé par elle au point de réaliser des œuvres justes et bonnes, le corps se réjouira-t-il de la vie éternelle. Si le corps l'opprime au point qu'elle fait le mal en négligeant les biens, elle se précipite elle-même aux enfers. L'âme doit répudier le diable qui a voulu être semblable à Dieu et elle abandonne ainsi la zone de l'Aquilon. Opérant le bien ou le mal, elle ne se nomme pas Dieu. Elle reconnaît grâce à la raison que toute créature vient de Dieu. Elle recommande donc souvent à son vase terrestre d'accomplir les œuvres célestes. Mais elle consent souvent de nouveau au désir de la chair, avant de s'en arracher encore et encore, avant de châtier le corps, en se levant vers sa tâche, en passant au crible les maux de son corps par la pénitence, comme on sépare l'ivraie du froment. Telles sont les œuvres de l'âme. Quand elle accomplit le bien, elle est comme le soleil dans son ardeur méridienne. Quand elle aspire au mal, elle est comme le soleil à son déclin. Quand par la pénitence elle se redresse, elle est comme le soleil qui détourne sa splendeur des tempêtes. Mais lorsque l'homme grandit, croît, opère sa croissance par les énergies de l'âme, et lorsque ses veines et sa moelle ne sont pas encore emplis ni affermis, la délicatesse de son corps l'empêche encore de connaître les biens célestes. Et elle est incapable de discerner les peines infernales. Son corps n'est pas encore prêt à la perfection. L'homme et son vase se trouvent alors dans un état de vacances, parce que cet homme n'éprouve pas encore la véritable crainte. De même, les hommes aux premiers âges du monde sont encore dénués de la crainte de la loi. Dans la plénitude de l'âge, corps et âme s'affermissent et l'âme incite le corps à opérer les œuvres bonnes. Mais le corps abandonne la volonté de l'âme. Il exerce ses énergies conformément au désir de la chair. S'il est seul et ainsi, il s'évertue sa vie durant tant que les forces de l'âme ne le retiennent pas par la pénitence. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Au début des âges du monde, on aboutit au déluge. Mais à la fin des âges du monde, l'homme acquiert toute sa force. Et l'heure est arrivée. Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante dans l'œuvre de Dieu. Nous arrivons à la fin, l'homme acquiert la plénitude de son âge. Il peut maîtriser tous les éléments et venir à bout de l'antiquité. comme nous l'avons déjà dit, l'espace compris entre le front et le bout du nez correspond au pur éther. Le front entre le cerveau et les yeux soutient ces deux organes. Il abrite les maladies du cerveau et des yeux. Commencez à comprendre comment elle parle des maladies. On ne peut pas mettre entre parenthèses ça. Il abrite les maladies du cerveau et des yeux, de même que la lune sous le soleil avec son entourage d'étoiles est un réceptacle fréquent de ce qui provient d'en haut et de ce qui monte d'en bas. Oui, c'est extraordinaire ça, vous voyez, quand dans le cerveau, c'est-à-dire bon, dans l'intellect, vous assimilez corporellement dans les parties médullaires du cerveau, c'est-à-dire de votre contemplation, le soleil du Christ et l'Immaculée, toute la possession en plénitude de grâce de la résurrection en Marie, la Lune. Vous avez donc toutes les étoiles étincelantes de la prédestination de tous les saints. Quand vous portez tout ça en vous, dans la mise en place du corps spirituel, alors bien sûr, vous pouvez atteindre toutes les maladies, les yeux. De même que la lune sous le soleil avec son entourage d'étoiles est un réceptacle fréquent de ce qui provient d'en haut et de ce qui monte d'en bas. Les yeux qui voient tant d'objets désignent les étoiles du firmament dont l'éclat pénètre tout. Le blanc de l'œil correspond à la pureté de l'éther. La clarté du regard à l'éclat de l'éther. Les pupilles à ces étoiles. L'humeur des cieux correspond à l'humeur que les eaux supérieures déversent dans l'éther pour éviter ces lésions que provoque le feu supérieur. C'est ainsi que l'âme, placée dans une pénitence authentique entre science et circonspection, pousse le corps à la pénitence par le moyen de la grâce divine. Le respect placé entre la science et la circonception. Vous voyez, la science, la connaissance de Dieu. Plénitude, la circonspection, c'est l'aspiration par anticipation de la plénitude de l'accomplissement de l'Église en nous de cette terre, dans l'instant présent. Donc le respect placé entre la science et la circonspection est leur guide. Lui dont la marche est droite, lui qui aime la pudeur, les yeux symbolisent donc la circonspection de l'âme. Lorsque l'homme est ému, soit de joie, soit de tristesse, les vaisseaux du cerveau, de la poitrine, du poumon, eux aussi sont ébranlés. Ces vaisseaux envoient leurs humeurs vers les vaisseaux cérébraux, qui les recueillent avant de les communiquer aux yeux. Ainsi naissent chez l'homme les larmes. De même, lorsque la lune croît et décroît, le firmament ébranlé par les vents secoue de son tumulte la mer et les autres eaux de la terre, le monde psychique est en nous. Ces eaux produisent une fumée, une humeur. Ces 10 nuages recueillant cette fumée, cette humeur, l'étendent jusqu'à la lune. Pneumato surnaturel. Et celle-ci, après s'en être imbibée comme assoiffée, les renvoie aux nuages. En incitant ces nuages à produire une pluie appropriée. Ainsi, des eaux supérieures élevées et renvoyées par les nuages les plus descendent sur terre, l'âme de même secouée par la crainte du Seigneur éclate en larmes abondantes. Ces soupirs et ces larmes produisent la viridité et c'est la pénitence. Voilà la guérison de Saint-Hildegarde. C'est pas de souci du fenouil, après avoir mangé des châtaignes.
Oui.
À condition d'avoir assécher l'humidité par les pôtres. Toute forme visible a donc son nom et sa mesure. Ainsi les yeux, les deux yeux ont la même taille. Leurs globes qui font fonction de miroir et qui les entourent ont également la même grandeur. De même, Dieu a séparé les vertus des vices, les œuvres saintes des péchés. Il a également distingué par la forme et par le nom les créatures connues de l'homme. Grâce à la circonspection qui lui permet de prévoir certains biens, comme le fait l'œil, et tout en considérant ses bonnes intentions, l'homme possède un discernement sincère et équilibré. S'il dépasse la mesure dans le bien, il peut courir à l'abîme. Je répète, s'il dépasse la mesure dans le bien, il peut courir à l'abîme. S'il recherche l'excès dans le mal, il périra définitivement dans le désespoir. L'homme dans le bien ressemble au jour, à la nuit dans le mal. Les yeux lui permettent de voir, le nez de sentir et la bouche de goûter. De même, par l'énergie du soleil et de la lune, les étoiles supérieures à leur service communiquent leur rayonnement aux autres étoiles, si bien que les différentes lumières s'attisent réciproquement. Je laisse passer le menton. La vue dirige les autres sens. Le soleil, la lune et les étoiles, l'ensemble du firmament. Les sens se règlent sur les intentions de l'homme et les vertus aussi. Les sourcils protègent les yeux. De même que la lune protège et nourrit les astres. L'âme de même joint à la crainte de Dieu la constance et l'assurance. Du nez à la gorge, c'est l'air à queue. Le fameux air à queue, accompagné de l'air dense, plan et lucide, qui se manifeste. Ça vous l'apprend par cœur, ça. Ça vous l'apprend par cœur, ça. Le nez désigne l'air qui ébranle les eaux. La bouche évoque l'humidité qui correspond à la raison. Les oreilles symbolisent la rumeur et le bruit de ces eaux qui se répandent grâce au vent de l'air à queue et à la montée des nuages. De même, l'intérieur de l'homme est ébranlé par l'exemple du juste. Et la transformation surnaturelle en Saint-Joseph ébranle tout en nous et transforme tout. La langue évoque le gonflement des eaux. L'âme pécheresse provoque comme une inondation. Les mots ressemblent aux vagues, ils servent la louange du Seigneur. Les eaux sont retenues par l'air dense et lucide, de même les dents retiennent le débordement des eaux. Vous n'avez pas de dents, bavrez tout le temps. L'énergie de l'âme évite le déferlement des pensées mauvaises, les dents tirent leur dureté du cerveau. De même, c'est Dieu qui a créé et affermi le corps, vêtement de l'âme. La croissance des dents ressemble à celle de l'âme. Et oui, les dents, ça représente les vertus. Et ça vient de la lumière, d'amour, qui établit dans le feu le souffle de la raison. Le péché amollit l'âme, comme l'âge amollit les dents. L'humidité du cerveau se coagule après l'enfance dans les cavités dentaires. Les dents moulent les aliments comme un moulin. L'âme, elle aussi, tourne comme un moulin, la grâce de Dieu autant que les insinuations du diable qui l'agite. La chevelure correspond à la pluie qui humidifie la terre. Elle évoque l'innocence et l'humilité de l'âme, mais également les vertus qu'engendre l'énergie de l'âme du croyant. L'homme, tourné vers l'Est et regardant l'Est comme l'Occident le fait, tient les bras écartés. comme le sud et le nord sont séparés. Ils tendent même le bras droit vers le sud et le bras gauche vers le septentrion. De même, l'âme, ses énergies et les quatre éléments opèrent au travers de l'homme par la science du bien et la science du mal. La science du mal, septentrion. Les fécondités de Dieu, la porte dans le soleil. Par la science du bien, l'homme se tourne vers l'est. Par celle du mal vers l'Occident. Ainsi l'homme, par la science du bien enflammé par ce feu qui est Dieu, accompagne le vent du midi dans la perfection des œuvres les plus saintes, cependant qu'il encourt dans l'action des œuvres mauvaises et selon ses péchés le châtiment de l'Aquilant. L'âme qui donne la sensibilité au corps communique également à l'homme par ses énergies le froid et le chaud. Grâce à elle, il sent donc la chaleur du vent du midi et le froid de l'Aquilant. Comme nous pouvons le constater dans la respiration. L'homme à sa guise peut expirer de l'air chaud ou de l'air froid. Dans la créature que ses yeux distinguent et selon les désirs de la chair, l'homme œuvre avec l'âme ou le bien ou le mal. Et cette âme, dans la crainte et dans l'amour de Dieu, fait le bien dans sa partie droite, pour ainsi dire. Avec l'aide de la grâce divine, la science mauvaise se trouve dans l'homme supplanté par la bonne. De même que la main gauche est dominée par la main droite, qui a plus de force. D'après saint Hildegarde, il vaut mieux pas être gaucher. Ouais. Cette âme souffle en provenance de Dieu, demeure dans le corps de manière invisible, et quand elle l'incite à une quelconque action, elle est reconnue non par la vue, mais par la force de la raison intérieure. De même, on ne voit pas le vent, on le reconnaît à son souffle, à son bruit, à son mouvement de l'air. La science humaine ne peut donc ni comprendre, ni saisir ses réalités. Ça. On va passer les omoplates, les jambes. On va passer les membres inférieurs, de l'épaule au coude, des cuisses en coupe transversale. C'est passionnant à chaque fois. Hein. La base de la gorge jusqu'au nombril, c'est l'air qui est désigné. Hein. La base de la gorge, c'est l'air qui est désigné, contemplatif. L'essence de l'âme, qu'on fait oraison. Ça, ça faudrait dire ça. Mais... Quand on fait oraison, c'est pas avec les yeux. Vous avez bien compris. Parce que les yeux, c'est la circonspection. C'est avec l'essence de l'âme. L'essence de l'âme. Là, entre la gorge et le nombril. Il y a au corps, au centre, au milieu. Il y a l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, c'est l'essence de l'âme qui cherche, qui désire, qui veut voir Dieu. L'œil de l'homme, c'est l'essence de l'âme.
Remarque qu'il a compris tout de suite l'essence de l'âme.
Et ça vient pas d'ici, ça vient pas du Kundalini. Ça vient ici, de là à là. Du centre. C'est l'œil de l'âme qui fait oraison. Et pour ça, il faut aucun mouvement, parce que le moindre mouvement, un petit cheveu d'un mouvement, fait que l'essence de l'âme, c'est comme si on fermait les yeux, on ne peut pas voir le visage de celui. Mettez un cheveu dans l'œil, vous voyez plus rien. Dans l'oraison, il faut aucun mouvement. Il suffit de poser ses mains comme ça. Tranquille. Comme ça, vous faites comme ça, regardez. Pouf. Pof, la tête droite. Et alors, on bouge. On respire moins. On ne croise pas les jambes. On ne croise pas les membres. Thank you.
Même les énergumènes les plus excités savent le faire. C'est très simple. Il suffit de décider d'aimer Dieu. Et tout le monde peut le faire quand il veut, comme il veut, au moment où il le veut, et dans le temps qu'il veut, et dans la durée qu'il veut. C'est un pouvoir qui est donné à l'homme en permanence, quel que soit son état, s'il renonce au péché. S'il y a un mouvement, vous le savez, combien de fois on a fait cet exercice, si je surprends un mouvement, d'un seul coup, vous voyez, au bout de 3 minutes, ou bien simplement, ou bien, c'est un mouvement qui prouve que vous n'avez pas renoncé à un péché que vous avez fait. Peut-être quand vous aviez 3 ans, vous n'avez toujours pas renoncé à ce péché-là. Ah, vous ne voulez pas revenir en arrière parce que je ne veux pas revenir sur ce péché. Je ne veux pas y renoncer. Hein. Ce n'est pas question, ça. Qu'on ne me touche pas là-dessus. Hein. Sinon, je me retire. Alors, il y a ces mouvements. Donc, dès que vous avez un mouvement, alléluia. Vous savez qu'il y a un péché mortel, que vous n'avez pas demandé pardon, qui est toujours en vous, auquel vous êtes toujours attaché, et dans lequel vous demeurez. Alors, vous devez demander pardon pour ce mouvement. Dès que vous avez un mouvement, je demande pardon. Je prends ce mouvement que je viens d'avoir. Ça peut être un glou-glou-glou. Vous savez, quelquefois, vous avez votre ventre qui fait glou-glou-glou-glou. Vous pouvez avoir aussi des suffocations. Vous avez des... Je sais pas, c'est comme si ça... Ça arrive, ça, dans la quatrième demeure. Hein, quatrième demeure, on a des suffocations. Tous ceux qui font raison ont eu des suffocations. Ça, c'est pas compliqué. Vous pouvez pas, ça vous surprend. Vous pouvez pas, c'est pas vous qui avez décidé de faire le. Et il y a encore un péché qui vous empêche de passer de la quatrième à la cinquième demeure. Vous êtes disponible à la grâce, mais vous ne voulez pas être assumé par le Père pour être son instrument. Il y a un péché qui vous en empêche. Vous êtes toujours attaché à ce péché. Vous êtes attaché à votre liberté personnelle. Vous avez arraché la liberté du don, du mouvement éternel d'amour du Père, pour que ce soit une liberté souveraine et éternelle. Alors, quel est ce péché? Est-ce que c'était dans la période embryonnaire? En tout cas, je sais que je fais un mouvement. Je perçois un mouvement. Je constate un mouvement. Pour faire raison une demi-heure par jour, je vous assure, vous verrez, il y aura un mouvement. Et ce mouvement, je l'arrache de moi, je dis, oh pardon, j'ai eu un mouvement. À chaque fois que vous avez un mouvement, vous devez demander pardon. Arracher, lier, briser ce mouvement, le détester, le déceler. Le sceller, le faire disparaître en demandant pardon dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, comme ce mouvement, vous avez fait ça, votre âme fait apparaître la connaissance, ou du moins l'apparition, la connaissance de l'existence de ce péché qui est encore en vous. Et vous pouvez prendre le noyau du péché, même si vous ne vous rappelez pas lequel il est. Même si vous vous doutez un peu, mais vous n'en êtes pas sûr, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors vous prenez ce péché, et vous rentrez dans l'œuvre de la pénitence, vous arrachez ce péché de votre âme, de l'essence de votre âme. Et vous plongez dans le sang précieux de l'agneau pour être absous. Et vous demandez pardon pour toute la terre, pour tout l'univers, pour toute l'humanité qui a fait le même péché que vous et qui produit à cause de cela le même mouvement que le vôtre. Vous l'arrachez de l'humanité tout entière et vous plongez dans le sang précieux du Christ. Si vous faites cela, ce mouvement ne reviendra plus jamais. Il y aura d'autres mouvements parce qu'il y a d'autres péchés. C'est ainsi que l'âme se construit dans les œuvres de la pénitence pour trouver la virilité de l'homme de la fin, celle qui doit anéantir l'Antichrist.
l'homme rentre donc dans la crainte de Dieu. J'ai pas fini. Tant pis pour vous. J'ai parlé. Que le Seigneur me brûle les lèvres. C'est donc que la poitrine de l'homme évoque la plénitude et la perfection de cette zone aérienne. Elle englobe le cœur, le foie, le poumon et les autres organes du ventre. De même, cette zone aérienne englobe la chaleur, la sécheresse, l'humidité de ces différents organes. De même aussi, l'âme discerne dans la poitrine toutes les pensées. Elle considère la cause utile ou inutile de leur naissance. Elle les consigne en quelque sorte avant de décider de l'attitude que doit prendre l'homme en la matière. Ce rôle de discernement est essentiel pour l'âme. Le cœur détermine la chaleur. Le foie détermine la sécheresse. Le poumon détermine l'humidité. La gorge envoie la nourriture à l'estomac après qu'elle a été broyée par le moulin des dents. De même, la poitrine de l'homme tempère par la pensée et par la réflexion tout ce qui concerne l'homme. Le ventre contient et enferme les viscères, l'air dont nous avons parlé transmet dans les fruits les énergies actives et préserve pour le salut de l'homme toutes les créatures. L'âme fait de même avec les actions sur les pensées. Sur la poitrine, là où se concentrent toutes les volontés, s'élèvent des monticules de chair qui symbolisent la fertilité de cette zone aérienne que nous avons évoquée. Les seins représentent la force et la plénitude de l'homme. Ils montrent aussi la fécondité de cette terre pour le bien de la terre. L'âme reconnaît aussi ce qui l'a fait s'élever comme l'air. Il est certain que la science est à l'âme ce que l'esprit est au cœur. Il est certain que la science est à l'âme ce que l'esprit est au cœur. C'est certain, ça. Elle est le véhicule qui permet la réalisation de toutes les œuvres humaines. Le désir adhère au cœur de l'homme comme les seins à la poitrine, qui concentrent en eux l'énergie tout entière. L'âme est contrainte d'agir par le désir de la chair. Par elle, aérienne, chaude et humide, toutes les œuvres s'accomplissent. La fécondité de toute la terre est elle aussi abondamment produite par l'air. En ce lieu, l'homme manifeste tout particulièrement sa force. Cependant que la femme nourrit du lait de ses seins, ses enfants, qui ne peuvent encore manger normalement. Les énergies de l'âme sont aussi très fortes, parce que l'homme sait et sent Dieu par leur intermédiaire, quelle que soit sa dépendance des désirs de la chair. C'est que la femme est faible. Élève ses regards vers l'homme. Elle lui est soumise. De même, la chair est soumise à l'âme. Mais tous deux agissent de concert, l'âme et le corps, à égalité. L'action du cœur, du foie, des poumons est comparable à celle de l'âme par le feu et le souffle de la raison. Je laisse tomber le ventre, je laisse tomber l'estomac, je laisse tomber le miel des rayons. Je laisse tomber le foie, je laisse tomber le poumon en lien avec le cœur. Je laisse tomber l'estomac qui régularise l'apport de nourriture et qui correspond à l'orgueil sans mesure et une abstinence exagérée qui affaiblissent l'âme. Saint Hildegard était contre l'abstinence exagérée.
Qui a fait ? Je n'ai pas entendu.
Elle est contre l'excès dans le bien. L'abstinence exagérée. L'Antichrist voudra le bien à l'excès, il va vers l'abîme. C'est la miséricorde
qui tempère l'Aquilon et qui transforme l'univers dans notre connaissance du bien et du mal, qui fait l'œuvre de la rédemption de l'homme et qui établit l'homme comme maître des éléments. Je laisse tomber le nombril, je laisse tomber les reins, c'est dommage. Je compare les reins avec la ruche des abeilles. La terre reçoit en tous ses points l'action modératrice du soleil. L'homme est pénétré de même de l'action de l'âme dans les reins. Les pierres et les arbres consolident la terre. L'homme est aussi, lui, affermi par les bonnes œuvres. Je laisse tomber la vessie. Je laisse tomber le dommage. Les dos et les flancs correspondent aux plaines fertiles où se réalisent les moissons.
L'eau et l'air, j'ai pas compris.
Le dos et les flancs. Le flanc, c'est là. Le dos. Les énergies de l'âme exercent un rôle analogue, mais ces zones incultes correspondent également aux contradictions et à l'insécurité qui menacent l'homme. La terre a la solidité de l'acier. L'âme ressemble aussi, elle, à l'acier qui durcit le fer. Les dimensions sont identiques des genoux à la cheville et du haut des cuisses aux genoux. La partie inférieure correspond à l'océan qui entoure la terre entière. Sa profondeur est identique à celle des eaux supérieures. L'anneau à queue qui entourait la terre. Mille mètres, paraît-il, de profondeur des océans.
Plus, puisque c'est pareil que les montagnes.
1000 mètres.
4000 mètres.
Oui, mais quand c'est venu, ça fait... Ouais. Puis après, c'est descendu, et ça a pris sa place. Si je te déverse, ici, là, je te déverse ici, 1000 mètres cubes d'eau de la maison, tu es noyé. Mais après, elle se répand et elle va à son lieu. Ça a donné les océans. Les océans ont augmenté de 1000 mètres de hauteur après le déluge. La Terre, avant le déluge, était un seul continent entouré d'eau. Le milieu exact de la Terre, c'était Jérusalem. Et aujourd'hui, les 1000 mètres là, il y a eu un écartement. Mais si on faisait descendre les eaux de 1000 mètres, ce qu'on fait, les océanographes le font, on fait des cartes des profondeurs des océans. Si on faisait descendre, ici tout ça serait à nouveau regroupé. Et le cœur, le centre, là, oui, mais là, c'est, on ne voit pas bien sûr. Le centre de l'ensemble des continents, c'est Jérusalem. Mais ici, on est à l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse, Notre-Dame du gouvernement. Alors, vous voyez bien la forme des océans ici, c'est la France. Vous voyez ici la forme des océans, c'est la France. Mais la France est aussi un continent. Elle est le soleil de sa forme dans les eaux profondes. Et la féminité du midi échappe à l'Aquilon. Il y a quelque chose, peu importe. Parmi ces vents, l'Aquilon révèle assez souvent sa rudesse pleine d'effroi quand il étend son aile venteuse vers la roue du firmament et en direction de l'Orient. Il soulève alors parfois une fumée terrible et novice, et nocive, pardon, ça doit être nocif, je pense, parce qu'ils ont mis novice, mais peut-être novice après tout. Il provoque au cœur de l'été une humidité glacée qui gâte les fruits et dessèche les arbres. Lorsque ce phénomène se produit, le souffle terrible se déchaîne avec une grande sauvagerie Il enveloppe dans un nuage la sphère du soleil et les hommes croient que le soleil est en train de disparaître. Ce souffle provoque également la confusion parmi les nuages et la terre se couvre de ténèbres. Les hommes ne peuvent observer ces phénomènes qu'à l'annonce de grands prodiges. Ces prodiges sont produits par les éléments, de même que la main est fléchie par le bras. Afin de tout manifester, accomplir, ce souffle, à la suite des actions contraires des hommes, s'amuse même parfois avec la lune. Celle-ci revêt alors tantôt une couleur noire, tantôt la couleur du fer ou d'autres couleurs. C'est pour l'homme un terrible spectacle. De quelque côté qu'il se tourne, l'aquilon est un vent dangereux. Il est nocif pour tout ce qu'il touche. Son froid et sa rudesse touchent également le souffle chaud qui descend doucement du soleil en déposant la rosée et qui produit sur terre toute la virulence. Et qui produit sur terre toute la viridité. Des fruits champêtres. De même, le bras gauche soutient le bras droit et l'aide. Tous ces phénomènes sont en rapport avec l'âme. L'âme, en effet, est présente dans le corps comme un vent dont on ne voit ni n'entend le souffle. Elle profère de multiples paroles qui résonnent comme l'arbre multiplie ses rameaux. De la même façon que les rameaux proviennent de l'arbre, les énergies de l'homme jaillissent de l'âme. Ses œuvres, quelles qu'elles soient réalisées de concert avec l'homme, ressemblent aux fruits d'un arbre. L'âme, en effet, a quatre ailes, comme vous pouvez le voir. Les sens, la science, la volonté, l'intelligence. Par l'aile des sens, elle constate ses blessures. Elle refuse les préférences de la chair. Elle est un souffle toujours en mouvement. Par l'aile de la connaissance, elle communique au corps le désir d'agir, hein, au corps qui sait que l'âme est sa vie. Par l'aile de la volonté, l'âme désire œuvrer avec le corps, car elle prend conscience de l'existence de ce corps. Par l'aile de l'intelligence, elle apprécie le fruit de toutes les œuvres, utiles ou inutiles. Elle qui sait qu'elle a pour demeure une vie qui a un terme. Ces quatre ailes lui confèrent ainsi des yeux, la science du bien et celle du mal. Elle voit devant elle et derrière elle, devant elle par la science du bien et grâce aux œuvres bonnes, derrière elle par la science du mal et grâce aux œuvres mauvaises. Elle est comme un oiseau qui vole. L'aquilon correspond aux insinuations du diable. Le nord est l'ennemi de la terre. Ce mal, cependant, aide à la connaissance du bien. Dieu a donc tourné le visage de son germe de justice, c'est-à-dire d'Adam, en direction de l'Orient. Quand il l'éveilla et quand il le dressa, sa main droite désigne les rivages du Midi, ceux de la béatitude, sa main gauche ses ténèbres extérieures qui en ont acquis. Il a joint à Adam les énergies des éléments et de toutes les autres créatures, hein, afin que l'homme puisse se servir de ses énergies contre l'aquilon, qui est la demeure des anges déchus. Les anges se sont détachés de Dieu, eux qui, niant Dieu dans leur volonté propre, ont eux aussi voulu être ce Dieu. Dieu désire donc que l'homme répudie l'aquilon par sa gauche même, qu'il le rejette, qui ne l'imite en aucune manière, de même que nous ne pouvons apercevoir notre dos. Il désire que l'homme mène contre le serpent le combat de Michel avec toutes les énergies de la créature. Il désire que sa main gauche oublie l'aquilon, comme les ténèbres se séparent de la lumière. Ainsi Dieu a communiqué à l'homme pour le conforter les énergies de la création tout entière. Ces énergies servent en quelque sorte à l'homme d'armure, afin qu'il connaisse par la vue les créatures, afin qu'il les perçoive par l'ouïe, les distingue par l'odorat, les domine par le toucher, afin que le goût, il en soit nourri,
Il doit en effet savoir que le Dieu véritable est le créateur de tout. Il ne doit pas engager la lutte contre lui, même si le conseil de l'antique serpent souvent le trompe. Dieu a façonné l'homme conformément à la constitution du firmament. Et de certaines autres créatures, de même que le fondeur se sert d'un moule pour faire ses creusets. Dieu a donné à ce grand instrument qu'est le firmament des mesures rigoureuses. Et ces mesures, il les a reproduites dans l'homme. Bien que l'homme fût petit et court de stature, nous en avons fait la description. Il l'a créé de telle sorte que les membres joints ensemble n'excédassent pas leur mesure exacte et leur poids exact, sinon par décision de Dieu. Oui, moi je fais 117 kilos. C'est par une juste permission de Dieu. Il a donc placé sur le corps des articulations, dans le cou, dans les épaules, dans les coudes, les mains, 22, les cuisses, les genoux, les pieds, les autres membres, de la même manière. Dieu a donc consigné dans l'homme toutes les créatures. Dieu a donc consigné dans l'homme toutes les créatures. Il a aussi reproduit en lui l'ordre des différents moments de l'année. Le mois de janvier est humide et froid, il correspond au cerveau, à l'enfance, à l'innocence souvent menacée. On allait au mois de juillet tout de suite parce qu'on y est. Le mois de juillet voit le triomphe des énergies. C'est pour ça que 9 mois après, c'est le mois de juillet. C'est le triomphe des énergies, c'est la naissance du triomphe. Avec le pouvoir infaillible du Saint-Père. Le mois de juillet voit le triomphe des énergies, il correspond au bras. L'homme accomplit son œuvre dans la foi comme la nature produit ses fruits. Voyez ? C'est pour ça que Dieu a voulu que ce soit au mois de juillet, le 9e mois. 888 ans qu'on attend ça. C'est le mois de juillet.
C'est 7, c'est pas non ?
C'est le mois de juillet. La proclamation de Saint-Edgar, docteur de l'Église. On sera là encore au mois d'août. Il me semble. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce qu'on vit depuis 2 jours. C'est dingue. Le mois d'août correspond aux mains. L'âme finit par atteindre Dieu dans l'ardeur du plein soleil. La plénitude, la paternité primordiale de Dieu est donnée à l'homme de l'Église catholique pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Dans le bras et dans la main, vous voyez. Merci Saint-Hildegarde, parce que c'est formidable. Vous voyez. Alors, dans le plein soleil, l'ardeur du plein soleil. Quand Dieu considéra l'homme. Donc l'homme récapitule non seulement les firmaments, les éléments, les formes, les aquilons, les vents, les souffles, les astres, leur ordonnancement. Mais en plus, il récapitule le temps, son rythme. Sa durée, les saisons, les mois, les jours, les secondes, les années. Ça palpite dans tous les organes de l'homme. Il en est le maître, il en est la source, il en est le centre, il en est l'actuation. Il a pouvoir sur les éléments. Quand Dieu considéra l'homme,
il lui plut beaucoup. Ben, figurez-vous que moi aussi, ça me plaît, moi, ça. Quand je vois une serpillière, ça ne me plaît pas. C'est pas parce que je suis paresseux. Et quand je veux une limace flasque là, une lavasse, une biscouillasse. Quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Vous voyez ce texte, vous le connaissez par cœur puisque nous l'avons médité ensemble bien des fois. En 1994, Jean-Baptiste était là. Et vous, vous étiez là aussi. Et on a lu ce texte. Toi, tu devais avoir... 94, tu devais avoir quoi, 4 ans, c'est quoi ça?
14 ans.
Hein? 14 ans. Tu étais là. Tu étais là. Je me rappelle très bien. On avait lu ce texte. Vous vous rappelez de ce texte? C'est un titre de carte. Je vous le relis. Hein? Quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Ne l'avait-il pas créé à sa ressemblance et selon son image? Selon la texture de sa lumière. À l'homme de proclamer par l'instrument de sa voix, de raison du cœur, la totalité des merveilles divines. C'est que l'homme est la totalité de l'œuvre divine. Et Dieu est connu par l'homme, puisque Dieu a créé par lui toutes les créatures. Et puisqu'il lui a accordé dans le baiser du véritable amour, et par la raison de le célébrer et de le louer. Mais il manquait à l'homme une aide qui lui ressembla. Dieu lui donna cette aide dans le miroir qu'est la femme. Celle-ci recela ainsi tout le genre humain qui devait se développer dans l'énergie de la force divine. En cette énergie, il avait produit le premier homme. Ainsi, hommes et femmes se joignent-ils l'un à l'autre pour accomplir mutuellement leur œuvre, parce que l'homme sans la femme ne pourrait pas être reconnu comme tel. Et réciproquement, la femme est l'œuvre de l'homme. L'homme est l'instrument de la constellation féminine et les deux ne peuvent vivre séparés. Voyez, Joseph, l'homme parfait et juste, est le principe de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est l'œuvre de la perfection de la justice de Dieu dans l'homme, restaurée par le sang de l'agneau, dans les 19 ans de sa transformation surnaturelle parfaite, et intégrée dans l'unité responsable assumée, qui origine la création de la femme. La femme vient de l'homme. Ce qui ne veut pas dire que l'Immaculée Conception est moindre que Saint Joseph. Ça ne veut pas dire que le Dieu vivant, créateur de toutes choses, est moindre que le Père. Bien sûr. sûr que non. La femme est l'œuvre de l'homme. L'homme est l'instrument de la consolation féminine. Et les deux ne peuvent vivre séparés. L'homme désigne la divinité. La femme, l'humanité du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est beau ça. L'homme, c'est la divinité, la source. En la divinité de la divinité elle-même, c'est le Père. La femme dessine l'humanité dans le Fils de l'homme. Elle exprime la sponsalité féminine de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et tu ne peux pas dire que la sponsalité de l'épouse incréée de Dieu avant la création du monde soit inférieure à la sponsalité de l'époux incréé, à la fécondité de la Très Sainte Trinité. Et les deux ne peuvent vivre séparés puisqu'ils sont à eux deux, dans l'au-delà de l'unité des deux, l'émanation du Saint-Esprit, qui est l'œuvre, leur œuvre commune. L'homme désigne la divinité, la femme l'humanité du Fils de Dieu, mais au sens de la signification sponsale, c'est clair. Aussi l'homme occupe-t-il le siège du tribunal terrestre et il est le maître de la création tout entière. Chaque créature lui obéit et lui est soumise. Il domine toutes les créatures, comme David l'a proclamé, inspiré par moi. Adonai Elohim dit à Adonai, mon Adon, siège à ma droite des ennemis, j'en ferai ton marchepied. Comprenons-le ainsi que l'homme aussi lui dise, Nadon, l'abba de toutes les créatures, s'adressa à son Fils incarné qui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et qui devrait être mon Seigneur. Homme pécheur que je suis, règne, toi qui es à ma droite. Règne sur l'homme qui est à ma droite. Puisque j'ai soumis à l'homme toutes les créatures, soumets-le à ton pouvoir par la foi, afin qu'il renonce à ses idoles et qu'il se convertisse à son Créateur, le Dieu véritable. Tu le feras aussi longtemps que j'écraserai les rebelles, tes ennemis dans l'impiété et ton marchepied. Je te le soumettrai pour l'éternité, et je ferai en sorte qu'ils adorent tes traces, quand ils auront renoncé à l'impiété, et te considéreront comme le Dieu véritable. Ainsi Dieu, par son Verbe, a créé toutes les créatures. Et le Verbe s'est incarné en homme qui est droite de Dieu puisqu'il est réceptacle de la puissance divine. Ce Verbe, le Fils du Père, exerce sur l'homme sa domination jusqu'à ce que ses frères soient au complet le jour du jugement dernier. Alors la tourbe diabolique et ses valets lui serviront de marchepied. De ce marchepied d'après la fin des temps, on verra, on connaîtra alors l'essence et la nature de Dieu lui-même, puisque Satan lui-même sera piétiné et totalement mis en poussière, marchepied qu'il est en vérité et pour toujours. Le Seigneur exerce donc au ciel sa domination. Il considère les astres qu'il a allumés et les autres créatures. De même, l'homme trône au-dessus de la terre et il domine les autres créatures parce qu'il porte le signe de la toute-puissance de Dieu. Ces signes, ce sont les cinq sens qui lui permettent, grâce à la puissance de Dieu, de comprendre et de sentir et qu'il convient dans une foi authentique de vénérer en Dieu la Trinité dans l'unité, et l'unité dans la Trinité. Cette vénération, elle est l'ornement des neuf cœurs angéliques, desquels fut exclue la tourbe diabolique de l'Aquilon. L'homme, quant à lui, est le dixième cœur. Que Dieu a en lui-même restauré dans la constitution première des anges déchus. Dieu en effet voulut devenir homme. Or son humanité, c'est la tour où déambulent les membres du dixième cœur.
Voilà pourquoi Dieu a consigné dans l'homme l'ensemble des créatures, supérieures aussi bien qu'inférieures. Cet homme, inspiré par l'esprit de vie qu'est l'âme, se dressa. Il connut toutes les créatures en son esprit, les embrassa dans un amour très vif. Vous voyez l'état dans lequel on était 9 mois avant la conception, hein, pendant 15 jours. En pleine connaissance. Et en toute liberté. Quand nous avons embrassé le péché originel, ben, librement, lucidement, sachant ce que nous faisions, nous n'avons pas fait rien. Hein. C'est pas Adam et Ève, hein. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui suis baptisé pour me faire pardonner mon péché originel. Un péché, c'est personnel. Il n'y a pas de péché. Vous savez la doctrine du Saint-Père. Il n'y a pas de péché. Si vous ne le faites pas consciemment, lucidement, librement, avec pleine complaisance, pleine connivence, et pleine liberté. Sinon, ce n'est pas un péché. Et nous sommes marqués par péché originel, donc on l'a fait en pleine connaissance. On n'est pas un bout de fromage. Notre âme, ce n'est pas rien. Et le corps qui l'assume dans l'unité du feu, du souffle, et des surabondances de la vie divine, ce n'est pas rien. Or, l'âme de l'homme est ignée. Elle réchauffe et elle vivifie la totalité du corps de l'homme. Parce que cette âme est ignée, remplie de feu. L'homme est un être de sang. Ses itinéraires ressemblent au vent parce qu'elle apporte et parce qu'elle émet son souffle à l'intérieur de l'homme. Quand ce souffle pénètre dans l'homme, il le dessèche, ce qui est fort utile, si avec du feu, s'il n'y avait pas le vent de nos pèlerinages, de nos actes, s'il n'y avait pas ce vent, il y aurait du feu, on serait sec. Ce qui est fort utile afin d'accroître, grâce à ce souffle sec, la bonne santé de l'homme. Quand elle le rejette, le feu intérieur faiblit et il perd sa chaleur. Par cette sensibilité, tout le corps s'édifie. L'homme peut vivre et régir les 5 sens du corps et leurs fonctions. Si cette chaleur n'était pas éliminée, le feu de l'âme étoufferait le corps, comme une maison qui est embrasée par le feu. Les énergies de l'âme revêtent donc l'homme de chair et de sang, et elles lui confèrent la perfection. De même, les souffles des vents font mûrir tous les fruits de la terre. Mais parce que l'âme est ignée, elle sait qu'elle possède Dieu. Ce sont ses œuvres dans son pèlerinage qui sont ces vents qui tempèrent ce feu et qui éloignent la sécheresse et permet les fruits de la terre jusqu'à l'accomplissement. Telle est l'œuvre de l'homme. De Dieu, donc, elle tient la loi de son action juste. Et l'homme ne doit pas tourner ses regards vers le vide. Voilà pour le zazen. Hein. Et pan. C'est ce que dit le Messie à Isaïe. Je ne vous ai jamais demandé de me chercher dans le vide. Le vide, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est l'Aquilon, c'est la demeure de Satan et de Lucifer. Oui. Elle ne doit pas tourner ses regards vers le vide, vers l'Aquilon, le domaine où le premier ange voulut régner et où il mourut d'une mort éternelle. L'âme joue le rôle d'une maîtresse de maison. En elle, Dieu forme toutes les demeures dont elle doit prendre possession. Personne ne peut la voir, de même qu'elle ne peut voir Dieu tant qu'elle demeure dans le corps, à moins qu'elle ne le voie et ne le connaisse dans la foi. Dans l'homme, elle œuvre en compagnie de toutes les créatures.
inséparément d'elle, qui sourde de Dieu. De même que l'abeille édifie dans sa ruche le rayon de son miel. L'homme réalise son œuvre comme un rayon de miel avec cette science de l'âme qui est en quelque sorte le miel liquide. Envoyée de Dieu, elle déverse dans le cœur les pensées. Elle les rassemble ensuite vers la poitrine. Pensées qui ensuite vont vers la tête, vers tous les membres de l'homme. Elle pénètre les yeux qui sont les fenêtres de la connaissance des créatures. Car pleine de raison, elle distingue par sa seule parole les énergies de ces créatures avec sa circonspection, comme nous l'avons dit. Ainsi l'homme réalise son œuvre selon la volonté de ses pensées et les nécessités qui se présentent. Lorsque le vent de la connaissance propre à l'âme se lève dans le cerveau, il descend de ce cerveau dans les pensées de l'esprit vivant, et c'est ainsi que s'accomplit l'œuvre de la volonté et de l'amour. Pas de contemplation, pas d'amour. Telle est sa nature, donc. Il est partout corporel. Lorsque l'homme accomplit des œuvres justes, les éléments suivent aussi des voies justes. Je répète. Lorsque l'homme accomplit corporellement des œuvres justes, les éléments, eux aussi, suivent des voies justes. Dans le cas contraire, l'homme est dominé par les éléments et par le douloureux châtiment qui les accompagne. Le corps agit en effet avec l'âme conformément à la volonté de ses désirs, et Dieu juge l'homme d'après ses œuvres, pour la vie ou pour la peine. L'âme pénètre tout le corps par ses pensées, ses paroles, ses soupirs, comme le vent pénètre tous les recoins d'une maison. Dans l'homme, cependant, cette coopération, le corps est pesant, il occupe un lieu déterminé, il ne peut se lever de terre, mais lorsque corps et âme vivants seront renouvelés, redevenus tout à fait eux-mêmes, après le dernier jour, il sera normal, il sera léger, il volera comme un oiseau. L'âme, tant qu'elle est dans le corps, sent Dieu parce qu'elle vient de Dieu. Mais tant qu'elle accomplit sa tâche dans les créatures, elle ne voit pas Dieu. Lorsqu'elle aura quitté l'atelier de son corps, lorsqu'elle sera confrontée à Dieu, elle connaîtra sa nature, hein, ses anciennes dépendances corporelles. Parce qu'elle connaîtra alors l'acmé de son grand honneur, elle réclamera son habitacle. Afin que lui aussi participe à cette gloire. Elle attend donc avec avidité ce dernier jour du monde. Car elle a perdu ce vêtement qu'elle aime et qui est son propre corps. Quand elle l'aura recouvré, elle verra avec les anges la face glorieuse de Dieu. Quand elle l'aura recouvré. Alors les anges reprendront leur célébration, comme ils ont été enflammés au premier jour à la suite de l'issue victorieuse de leur combat. Ce n'est qu'après le dernier jour qu'ils pourront célébrer Dieu dans la perfection. Parce qu'ils chanteront les nouvelles merveilles de l'œuvre de Dieu, l'homme. Ils frapperont alors leur cithare dans l'enjouement et dans la gloire. Aucune lassitude ne les affligera, jamais ils ne faibliront, jamais ils ne cesseront. De même qu'ils désirent contempler sans jamais céder le visage de Dieu. De même, ils ne cesseront de s'étonner des œuvres que Dieu a accomplies dans l'homme. Telle est en effet, comme nous l'avons dit, la forme de l'homme, et en son corps et en son âme. Elle est. Elle existe. En tant qu'œuvre que Dieu a accomplie de concert avec la totalité des créatures. C'est ce que Jean a décrit sous mon inspiration dans le premier chapitre de son évangile. L'homme est le vêtement que revêt mon Fils en la royale puissance, afin d'apparaître Dieu de toute création et vie de la vie. Dans la forme de l'homme, c'est la totalité de son œuvre que Dieu a consignée. C'est qu'un début. Hein. Nous avons 70 autres visions à lire. C'est notre première vision. On ne s'arrêtera pas. Hein. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.